fois s'être penché sur, non pas sur le berceau, mais sur les multiples berceaux de la famille Seyer et des collatéraux.
Nous sommes intéressés à Ernest Antoine Seyer à partir de, des deux Vindel. C'est-à-dire que nous nous sommes passionnés depuis longtemps pour la famille de Vindel, dont différents membres ont eu un rôle très important dans l'histoire de France et même dans l'histoire de France récente. Et lorsque Ernest Antoine Seyer est arrivé au premier plan de l'actualité, nous avons eu la surprise de découvrir qu'il appartenait lui aussi à cette généalogie de Vindel à travers sa mère Renée de Vindel. Mais au total, le livre que nous avons fait s'intéresse très peu aux de Vindel, ou relativement peu par rapport à ce qu'était notre point de départ. Nous avons trouvé deux lignes peut-être plus intéressantes encore que les de Vindel. L'une est constituée par un ancêtre important qui s'appelait Jean-Joseph de Laborde, et l'autre est constituée par les Seyer eux-mêmes.
Voilà, ça nous amène à quelle période pour les de Laborde ?
À l'époque de Louis XV, puisque Jean-Joseph de Laborde était un des banquiers de Louis XV, et en fait, c'est surtout de ce de Laborde que nous sommes partis pour travailler ce livre.
Alors, quelle relation, je dirais, généalogique entre de Laborde ? C'est un arrière-arrière-arrière-grand-père, grand-oncle
C'est un ancêtre d'Ernest Antoine Seyer à la sixième génération.
Donc un ancêtre direct.
Voilà, et qui est partie prenante dans le mariage entre Louis XVI et Marie-Antoinette.
Voilà, donc déjà des données qui sont intéressantes, puisque on commence dans le beau monde, on commence sous l'Ancien Régime.
Oui, et ça va très très loin, puisque ça permet de traverser la Révolution, de voir à qui elle a bénéficié, et de mesurer donc la continuité de la situation privilégiée de certaines familles. Alors, pour ce qui concerne le lien direct entre les Seyer et les Laborde, ce lien n'intervient finalement qu'à l'époque du Second Empire, mais Seyer Ernest Antoine est un descendant, donc en ligne directe à travers une femme à un moment donné, de Jean-Joseph de Laborde. Et lui-même, Ernest Antoine, dans le Wuzhou, fait savoir qu'il s'appelle Ernest Antoine Seyer, mais aussi Ernest Antoine Seyer de Laborde.
Voilà, donc il revendique en quelque sorte ce nom. Alors, les Laborde, qu'ont-ils fait de si merveilleux pour que leur rejeton, même lointain, donc se réfère à leur nom ?
Bien, les Laborde étaient installés du côté de Saint-Domingue, puisque Jean-Joseph de Laborde était propriétaire de trois plantations sur lesquelles travaillaient quelques 1400 esclaves, et Jean-Joseph de Laborde a frété des navires pour la traite des Noirs. Donc ça situe déjà un peu l'ancêtre d'Ernest Antoine Seyer. Quelquefois, on peut rompre avec ses ancêtres, avec la ligne politique, on pourrait dire, de ses ancêtres, mais là, nous avons nettement l'impression qu'Ernest Antoine Seyer n'a pas rompu avec la ligne politique de ses ancêtres.
Les Laborde étaient surtout, pour deux des fils de Jean-Joseph, étaient des libéraux. Quant à leur présence à Saint-Domingue, c'était une présence de leurs capitaux, mais physiquement, ils sont restés, enfin Jean-Joseph de Laborde est resté sur la terre ferme. Il a deux fils qui sont morts dans l'expédition de la Pérouse, mais lui-même s'était enrichi dans le trafic de piastres qui transitait par l'Espagne et qui provenait du Mexique, et c'est ainsi qu'il est devenu l'un des deux grands banquiers de la cour de Louis XV. C'est-à-dire que le financement des guerres était la chose du banquier de la cour, et Jean-Joseph, ayant eu la réputation d'être un excellent banquier et d'avoir des liens avec différents personnages très riches de l'Europe du temps, a eu la charge de rassembler ce qu'il fallait du point de vue de l'argent métal pour permettre à Louis XV de faire face à différents conflits.
Donc c'était une grande fortune. Bon, est-ce qu'on pourrait trouver des éléments de comparaison par rapport à l'époque au hit parade des banquiers ou des hommes influents, la période Louis XV, il se situait après qui, avant qui
Parmi les clients et amis de Jean-Joseph de Laborde, on trouve Voltaire. Alors, par exemple, Voltaire, à la fin de sa vie, a expliqué qu'il avait investi 2 millions de livres à Ferney, à une époque où un manouvrier, en une année, pouvait espérer récupérer 300 francs. Alors, la fortune de Laborde est une fortune qui est dans la dimension de celle de Voltaire, elle est plus importante. Mais par exemple, quand Necker est devenu surintendant des finances, il a dû déclarer sa fortune, il a déclaré, lui, 7 millions de francs. Alors, Laborde, on peut penser qu'en moyenne, sa fortune personnelle aurait été de 30 millions de francs. Très curieusement, elle paraît nettement plus importante même que celle de Necker, qui était considérée comme quelque chose de très important déjà.
Oui, puisque l'histoire de France retient plus facilement Necker que Laborde.
Oui, si on prend maintenant dans davantage de détails, on peut voir que Laborde était un familier de Madame de Pompadour, du duc de Choiseul, et donc du ministre qui a été considéré comme le ministre le plus important, peut-être le plus intelligent, du règne de Louis XV. Et ce que disait Françoise tout à l'heure, cette intervention de ce genre de personnage dans le mariage de Marie-Antoinette avec le futur Louis XVI, c'est aussi quelque chose qui éclaire la finance européenne. C'est-à-dire que les finances de l'impératrice d'Autriche étaient tenues par une dame, une banquière, qui s'appelait la veuve Nettine. Elle était cette dame installée à Bruxelles. Et Jean-Joseph de Laborde est devenu le gendre de la veuve Nettine. À travers ce mariage, donc, on avait un lien entre la finance du royaume de France et la finance de l'impératrice d'Autriche.
Voilà, donc on peut déjà parler de pré-capitalisme international en quelque sorte.
Oui, et en ce qui concerne la traite des Noirs, Jean-Joseph de Laborde s'y est livré en concurrence tout amicale avec l'ambassadeur d'Autriche en France, Merci Argenteau. Il avait d'ailleurs utilisé le nom Merci Argenteau pour désigner un de ses navires. Et ce contact entre Laborde et Merci Argenteau est très important puisqu'il va se continuer à l'intérieur de la Révolution française. Et lorsque Barnave ira récupérer Louis XVI et Marie-Antoinette à Varennes, Barnave aura des contacts secrets avec Marie-Antoinette, et tout ça se fera toujours en liaison avec Jean-Joseph de Laborde, qui a toujours eu une grande tendresse pour Marie-Antoinette, quelles que soient les circonstances.
Donc antérieurement, puisque là on commence en fait, on monte à cheval à l'époque de Louis XV, pardon, j'ai dit en 1915, non, c'est pas la Grande Guerre. Mais antérieurement, la famille de Laborde était originaire de quelle région et quelle était son origine sociale? Est-ce que c'était de la vieille noblesse? Est-ce que c'était de la noblesse récente? Est-ce qu'il y a des données à ce sujet-là?
Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais en fait, il viendrait plutôt du Béarn. Et quand on parle de traite des Noirs, on en parle, mais c'est chiffré. C'est-à-dire il y a un certain Yves-René Durand qui a donné des chiffres quant à ce que rapportait la traite des Noirs pour M. de Laborde. Par exemple, elle lui rapporte cette traite des Noirs 383 114 livres en 1784, 239 589 livres en 1785, 206 672 livres en 1786-1787. Voilà. Donc quand on parle de traite des Noirs, il y a derrière des éléments, des documents.
Pour donc bien répondre sur le fait que Laborde n'était pas noble du tout, c'était la grande bourgeoisie. Et
la bourgeoisie du négoce. Oui.
Voilà, et ça se trouve marqué ensuite dans les mariages que les enfants, surtout les filles de Jean-Joseph de Laborde, vont réaliser. Il a deux filles, l'une va épouser un Descartes de la plus haute noblesse, et puis l'autre va épouser un Noailles. Et à cette occasion-là, on voit comment le rapport de force s'établit entre les familles nobles et les familles bourgeoises. Et les termes sont quelquefois très crus dans les correspondances échangées entre différents personnages. Donc on voit bien qu'à la veille de la Révolution, l'opposition était très brutale entre la bourgeoisie d'affaires, si on peut dire bourgeoisie d'affaires, et la noblesse d'Ancien Régime. Ça va très très loin, parce qu'on pourrait croire que la lutte des classes est un phénomène réservé à l'opposition entre le prolétariat et la bourgeoisie, mais ça se retrouve très très nettement entre la bourgeoisie type Laborde et la grande noblesse, qui pour sauver ses moyens de survie opère des mariages avec ceux qui sont les fortunés et qui sont apparemment porteurs d'avenir.
Voilà, donc ceux qui sont les fortunés jusqu'à la période de l'abolition des privilèges. Alors comment la famille Laborde va-t-elle aborder la révolution et la période post-révolutionnaire?
Alors, il y a déjà un phénomène particulier, c'est que le fils aîné de Jean-Joseph va être député aux États généraux. Et le problème dont il est porteur, lui, c'est comment récupérer l'argent qui a été investi dans les caisses du roi. C'est-à-dire que Laborde, à ce moment-là, a fait crédit au roi, de même que des gens comme Voltaire dans les années qui précèdent la Révolution. Et le problème de ces gens, c'est comment récupérer la mise de fonds. Donc, le fils de Jean-Joseph, le fils aîné, va profiter de sa présence à la Constituante pour faire un discours le 5 décembre 1789 pour proposer la création d'une banque, on dirait aujourd'hui de la Banque de France. De son point de vue, il s'agissait d'une banque d'actionnaires et seulement d'actionnaires. Donc, l'État, dans ce cas, était plutôt éloigné de la gestion de cette banque. Et dans ce cadre-là, le fils de Jean-Joseph va se trouver opposé à Necker, qui pense, lui, qu'il faut une banque qui puisse être contrôlée tout de même par l'État. Voilà. Alors, ce qui est très étrange, finalement, c'est que la révolution va s'achever, surtout après le coup d'État du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Le coup d'État lui-même est suivi, parce que Napoléon s'y était engagé, par la création de la Banque de France, 3 mois plus tard, et on enjambe les Laborde pour passer au Seyer à cette occasion précise. C'est que parmi les créateurs de la Banque de France, il y a deux frères Seyer qui sont, dès le début, parmi les 20 principaux actionnaires. Donc la transition Laborde-Seyer, c'est le passage d'un monde à un autre, le calcul de fond est resté le même, comment avoir un outil pour maîtriser les finances publiques, tout en ayant la possibilité, à travers les finances publiques, de garantir la fortune privée.